Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et nous accueillons Patrice au 39-21 ce soir pour débuter l'émission. Bonsoir Patrice.
Bonsoir.
Bonsoir. Quel âge avez-vous Patrice et d'où nous appelez-vous ?
Ah, moi j'ai 60 ans et je vous appelle du Loiret.
D'accord, très bien. Qu'est-ce qui vous amène, dites-moi ?
Eh bien, je voudrais vous parler un petit peu de mon livre « Sauf qui peut », qui raconte un petit peu, qui raconte même toute ma carrière de sapeur-pompier volontaire.
Donc, oui.
Durant 22 ans, j'ai essayé, en plus de mon métier d'enseignant, de rendre service à mes concitoyens.
D'accord, vous étiez enseignant et en même temps pompier volontaire.
Voilà, ouais. Comme 250 000 autres personnes en France.
D'accord. Et j'ai une première question, en fait. C'est celle qui me vient, hein, pardonnez-moi. J'attaque un peu par du dur, mais je vais vous en poser plusieurs parce que je trouve formidable de choisir d'être pompier volontaire. Et surtout quand on a un travail en plus. Donc c'est quand même un engagement certain, faire preuve de civisme. Mais que pensez-vous aujourd'hui et depuis de nombreuses années, on voit des pompiers se faire agresser, Patrice. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, en tant que pompier? Et est-ce que ça vous est déjà arrivé?
Bah, écoutez, déjà, il faudrait se cotiser pour acheter un cerveau à ces gens-là. Hein. Parce que agresser un pompier...
C'est totalement débile. Totalement débile.
Ah, bah, exactement, ça n'a pas de nom. D'autant plus qu'on est là pour vraiment pour secourir tout le monde. Évidemment, homme ou femme, vous en parliez tout à l'heure avec notre première ministre,
oui.
Quelle que soit la couleur de peau, la religion, nous on est là effectivement pour aider, pour soulager la douleur. Moi j'ai eu la chance de connaître le temps, enfin, c'est ce que je dis dans mon livre « Sauf qui peut », je suis resté 22 ans, j'ai eu le temps de recevoir des applaudissements. Au début de ma carrière, quand on intervenait au sein d'une cité, moi ça m'arrivait de repartir sous les applaudissements des gens. Et à la fin de ma carrière, eh bien, on s'est pris un réfrigérateur qui a été lancé du toit, qui est tombé à 5 mètres de nous. Et nous, on a de la chance, on a des collègues qui se sont pris une plaque d'égout. Donc voilà l'évolution un petit peu que je raconte dans mon livre. Voilà, c'est une évolution sociétale, en fin de compte.
Oui, oui. Mais je ne comprends pas quelle réflexion vous prenez, en fait, pour pouvoir être agressé comme ça. Qu'est-ce que ces gens, en fait, ont contre les pompiers? C'est ça que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont contre les pompiers?
Moi non plus. Je pense que c'est peut-être le fait de porter un uniforme. Hein. Je ne sais pas.
Oui, c'est ça. Il y a un amalgame qui est fait entre... Mais vous savez, ma femme, qui il y a une vingtaine d'années, était réalisatrice avant qu'elle change de métier. Et elle avait réalisé pour M6 une série de documentaires, hein, sur les pompiers. Mm-hmm. Et vous savez qu'il y a 20 ans, déjà, elle a vécu des épisodes, et c'était le début des épisodes, mais vraiment terribles, hein, avec agression de pompiers, mettre le feu à la camionnette des pompiers ou au camion.
Ouais.
Déjà, il y a 20 ans. Donc ça a commencé tout juste, en fait. J'ai souvenir d'avoir entendu et vécu, hein, de près, puisque un soir, elle a bien cru qu'elle allait mourir, vraiment, dans une cité pas loin de Paris. Et donc voilà, je vous raconte ça parce que c'est quelque chose qui révolte beaucoup de monde et on ne comprend pas, donc comme vous avez été sur le terrain, mais bon, vous venez nous expliquer, un frigo qui a atterri à 5 mètres de vous, c'est terrible. Terrible.
Vous savez, moi j'ai un très bon copain qui était pompier professionnel et qui donc voulait exercer ce métier pour vraiment aider tout le monde. Il a été appelé dans une cité. Il a bien vu que c'était un petit peu louche comme appel. Ils sont arrivés, leur fourgon a été entouré par une trentaine de jeunes excités. Il aurait parfaitement pu dire au conducteur « Vas-y, accélère, on s'en va ». Hein, je pense qu'il en aurait peut-être écrasé deux ou trois et il aurait sauvé sa peau.
Oui.
Non, il a arrêté. Donc le fourgon, enfin l'engin, puisqu'on ne dit pas camion chez les sapeurs-pompiers, l'engin a été encerclé par une trentaine de jeunes qui ont bloqué les portes. Ils l'ont extirpé, ils l'ont jeté à terre, ils l'ont arrosé d'essence. Et le meneur a allumé un briquet et il avançait et reculait la flamme du briquet de mon copain. Oui, vous vous rendez compte? Et puis, ensuite, il l'a moitié tabassé et puis ils sont sauvés. Ben, donc voilà, donc, il est allé voir un psy. Il en a eu pour des années à se remettre.
C'est terrible.
Complètement gratuit. Mais bon, enfin, dans mon livre, je raconte quelques anecdotes terribles, mais il y a beaucoup d'humour aussi.
Bon, alors, c'est la première question que je voulais vous poser, parce que pour une fois que j'ai un pompier en direct et que je parle avec un pompier, ceci dit, ce week-end, j'étais avec des pompiers professionnels. Mais bon, je ne leur ai pas du tout parlé de leur métier, d'ailleurs. Et c'est à vous que je pose ces questions-là ce soir. Qu'est-ce qui, maintenant, on va passer à autre chose, parce que je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire sur la violence exercée sur les pompiers.
C'est une infime minorité, hein, il faut quand même le dire.
Oui, c'est une infime minorité, mais ça devient problématique tout de même que les interventions de pompiers soient maintenant accompagnées de la police. C'est un peu antinomique même, puisque les pompiers...
On a ordre d'arriver en marche arrière pour pouvoir se sauver plus rapidement.
C'est-à-dire
qu'on perd du temps quand on arrive sur un incendie ou une personne qui a besoin de secours.
Quand on pense en plus que vous venez pour sauver des vies, en fait. Et cela peut être la vie d'un parent de ces abrutis là, qui vous agresse.
C'est ce qu'on leur dit quand on dialogue, quand ils sont calmes.
Mais difficile de dialoguer avec une meute de loups, en fait.
Ah bah en plus, on a effectivement l'effet de groupe, hein. L'effet de meute,
Mais vous savez que les journalistes, c'est pareil. Hein. J'ai des copains qui ont vécu des choses très, très chaudes. Et la dernière en date, ils ont été obligés de partir en courant, de traverser l'autoroute en courant avec leur caméra. En fait, ils se sont fait voler leur voiture, brûler leur voiture, voler une caméra. Enfin, terrible. Maintenant, je pense que c'est toujours les mêmes clients qui font ça. Quel est le souvenir le plus, en termes d'émotion, le plus grand pour vous? Qui sort de ces 22 ans de carrière.
Bah écoutez, il y a des souvenirs tristes et puis il y a des souvenirs gays. Hein. Le livre raconte beaucoup de souvenirs gays. Vous savez, on est confronté à l'humain avec un H majuscule, c'est-à-dire que l'humain avec toutes ces situations complètement burlesque. Alors évidemment, on a très souvent le classique le mari, la femme et l'amant. Hein. Je me rappelle très bien, une fois on a été appelé pour quelqu'un qui était enfermé sur le balcon et il appelait discrètement les gens. Et en fin de compte, c'était l'amant qui était venu voir la femme. Le mari rentrait plus vite que prévu. Ouais. Donc il s'est caché sur le balcon et ensuite le mari est sorti avec la femme. Et a fermé la porte du balcon. Et donc, il se retrouvait... Donc, l'amant, il était sur le balcon. Il appelait discrètement. Mais non, mais ça, c'était très comique. Il y a tout un tas de situations comme ça. Mais mon plus beau souvenir, c'est l'accouchement. J'ai fait un véritable accouchement. Et ça, ça reste un souvenir extraordinaire.
Un accouchement génial.
Oui, parce que il se trouve que le SMUR était occupé par ailleurs. Donc le papa nous a montré la chambre, est parti au bistrot d'en face et nous a laissé avec la future maman. Et donc on a tout fait de A à Z, c'est-à-dire que le grand drap stérile, tourner la tête un quart de tour délicatement et puis clamper. Ça c'était mon meilleur souvenir. Et mon pire souvenir, je crois, vous savez, quand on est sapeur-pompier, on soulage beaucoup, mais on ne sauve pas des vies tous les jours. Hein. Si déjà on arrive à soulager, c'est bien. Et là, on avait été appelé sur un chantier. Il y avait un pauvre papa qui avait une soixantaine d'années, un pauvre ouvrier qui ne se sentait pas très bien. On arrive, il nous fait un arrêt cardiaque. Et comme on était tout de suite aux places, on a réussi à le ramener à la vie. Et ça, c'est extraordinaire parce que vous sauvez la vie de quelqu'un. Et donc, il nous dit « Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé ?»« Ah bah oui, bah, trois fois rien, on vous a ressuscité. » Et donc, tout content, on parle. Il nous fait un deuxième arrêt cardiaque. Et une deuxième fois, on le ramène à la vie. Et ça, c'est rarissime.
C'est énorme.
énorme. Et il nous parle, il avait laissé sa femme au Maghreb, il nous parle du désert, il nous parle de tout ça. Et il nous fait un troisième arrêt cardiaque.
Oh là là.
Et on n'a pas pu le ramener. Et ça, ça a été... Ça a vraiment été un souvenir terrible, 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 parce qu'on on est passé par un ascenseur émotionnel extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est extrêmement heureux d'avoir rendu la vie à quelqu'un, et puis terriblement, même plus que déçu, catastrophé de voir que bah, l'issue avait été inéluctable, quoi. C'était fini. Donc ça, ça m'a marqué.
Oui, ça doit être... parce que ouais. Oui, vous avez dû faire des interventions où... En fait, la personne ou les personnes étaient sur le fil, en fait, hein, étaient entre la vie et la mort. Ça a dû vous arriver plusieurs fois.
Bien sûr, ça arrive très souvent. C'est-à-dire, encore une fois, vous savez, au cours de notre formation, puisque donc dans Sauf qui peut, je raconte un peu tout mon parcours. C'est-à-dire, donc j'arrive, je suis un petit gamin brut, il y a la formation, et puis donc toute ma carrière. Et ce que l'on nous dit dans la formation, surtout, on nous dit ne vous prenez jamais pour un médecin. C'est-à-dire que nous, on est là pour faire en sorte que lorsque la personne va mal, ça n'aille pas de plus en plus mal. On est là pour maintenir en vie. Et c'est le rôle du médecin, effectivement, de prodiguer, de mettre les produits qu'il faut. Etc. Mais nous sommes secouristes seulement.
Vous êtes secouriste, oui.
Même si, parfois, on va un petit peu au-delà, mais il faut savoir rester modeste. Vous savez, la vie de sapeur-pompier, c'est une école d'humilité, une école de camaraderie, c'est l'école de la vie, en fin de compte. Mais c'est un très beau métier. C'est une pour avoir fréquenté le milieu enseignant et le milieu sapeur-pompier, le milieu sapeur-pompier, c'est vraiment un milieu extraordinaire.
Oui.
Extraordinaire.
Qu'est-ce qui, en fait, je vois que vous êtes allé aussi chercher tout un tas de bestioles, et je vois qu'un jour, on vous a demandé même d'aller chercher un singe.
Oui, alors là, celui-là, on ne l'a jamais rattrapé, le singe. Hein.
Vous ne l'avez jamais rattrapé? Mais il s'était échappé d'un appartement ou
Oui, exactement, exactement. Il y a des gens qui... Vous savez, des animaux... J'en ai vu des animaux, hein, des chats, des chiens, des chevaux, des vaches, des boas, des rats. Et là, les gens, ils avaient un singe. Et puis, ben, le singe, ben, il s'était sauvé par la fenêtre. Et puis, ben, vous savez, en général, les gens, quand ils ne savent pas quoi faire, ils appellent les pompiers. Donc, ben, on arrive, et puis on a l'échelle à coulisses, on dresse l'échelle à coulisses. Évidemment, le singe, il nous attend. Ah, le singe, il s'est bien amusé avec nous. Hein. On monte, et puis dès qu'on arrive à un mètre du singe, paf! Il passe dans l'arbre à côté. Alors, on a essayé 3-4 fois, puis ensuite, on a dit aux gens que, ben, entre un singe et nous, pour courir dans les arbres, on abandonnait, quoi. Et comme, en fin de compte, le singe était plus ou moins apprivoisé, ensuite, il est revenu. Il est revenu chez les gens, c'est-à-dire que l'affaire s'est bien terminée. On n'a pas un singe abandonné qui erre dans les forêts françaises. Quoi. Voilà.
D'accord.
Cela dit, je suis déjà allé récupérer un crocodile. Hein. Un petit crocodile, dans un étang d'Île-de-France. Un petit crocodile. Là aussi. Alors là, je pense que ce sont des gens qui avaient dû le rapporter de je ne sais quel pays. Et puis, ben, crocodile, ça grandit. Puis ils ont dû en avoir assez. Donc, ils l'ont lâché dans un étang. Voilà.
Pas de serpent?
Ah, oh, si, bah, les serpents. Si,
oui, oui, voilà. Là.
Ça, c'est presque du classique. Là. Ouais. Et ouais, les boas, tout ça qui vont dans les tuyauteries. Tout ça. Enfin, c'est très varié. Ça, c'est pas un métier qui engendre la monotonie.
Et je vois aussi qu'il y a parfois des jeunes filles qui vous appellent pour quand elles sont un peu, elles se sentent seules ou pour participer à des fêtes.
Ah, ça c'est joker, ça. Hein.
Ah, c'est joker.
Non, non.
Ça, on n'en parle pas ce soir, donc. Il y a toujours le fantasme du pompier, hein, quand même. C'est quand même.
Oui, mais non, alors ça, je vous dis des jeunes filles. Moi, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois en 22 ans, effectivement. Un soir, on a été appelés. C'était des demoiselles qui faisaient la fête et qui avaient besoin de mâles pour mettre un petit peu d'ambiance. Donc
voilà les pompiers.
Donc à l'époque, voilà. Donc, puis
pour éteindre le feu.
À l'époque, on pouvait se permettre. Voilà, c'était ça.
Exactement.
Et on pouvait être un petit peu, comment dire, borderline au niveau de la loi. C'est-à-dire que, donc, du coup, mon chef, parce que ce n'est pas moi qui commandais, je ne sais pas si j'aurais osé. Donc il a appelé la caserne pour dire, écoute, on est à tel endroit, donc on ne rentre pas, s'il y a besoin de secours, tu nous appelles à tel numéro, on décalera, c'est-à-dire on partira de tel endroit.
Très bien.
Voilà. Mais ça, il ne faut pas le raconter. Hein,
ça y est, c'est fait.
voilà.
on plaisante, mais il y a bien sûr des sujets plus sérieux, puisque c'est une mission qui reste... essentielle, sérieuse et dangereuse parfois. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur ?
Alors, la peur, on a très souvent peur, mais justement, on apprend à la maîtriser, la peur. Parce que celui qui n'a pas peur, il se met en danger. Et donc, s'il se met en danger, il met les autres en danger.
Oui.
Donc, la peur nous aide justement à ne pas faire le geste de trop. Par contre, rétrospectivement, oui, on se dit « Oh là là, j'ai échappé belle ». Moi, à titre personnel, ça m'est arrivé d'arroser un incendie. Hein, et quand l'incendie a perdu de sa vigueur, je me suis rendu compte que j'étais resté 10 minutes à 50 cm d'une bonbonne de gaz qui, heureusement, n'a pas explosé sous la chaleur.
Mmh.
Donc là, très clairement, j'ai risqué ma vie. Mais je ne le savais pas. Et la deuxième fois où j'ai vraiment risqué ma vie, c'est parce que j'ai voulu me croire plus beau que les autres. Hein. Donc on était suite à des violentes tempêtes, il y avait pas mal de pavillons dont le toit avait été envolé. Donc on mettait des bâches et donc on avait évidemment la consigne de s'amarrer très sérieusement. Et vous savez, le temps de se mettre en sécurité, enfin ça perd énormément de temps et comme il y avait beaucoup d'autres choses à faire, je me suis passé de la sécurité jusqu'à ce qu'il y ait une poutre qui cède sous mon poids. Et si je n'avais pas eu le réflexe de me rattraper, ben j'étais 5 mètres plus bas. Quoi, voilà. Donc ça aurait été une erreur de ma part.
Oui, oui. Et vous avez eu des incendies, des tempêtes, des choses où ça remuait bien, où c'était difficile ?
Bien sûr. Ah ben bien sûr, c'est l'essence même de la fonction de sapeur-pompier.
Quel souvenir vous gardez de la plus grosse tempête ou plus gros orage, enfin, je ne sais pas, un truc où ça secoue vraiment?
Ah ben, là, je peux vous garantir que ça m'avait secoué. Lorsque vous êtes suspendu par les mains et que vous avez 5 mètres de vide en dessous de vous, là, vous êtes motivé pour faire une traction. Hein. Là, ça m'avait bien secoué. Mais... autrement, lorsque vous passez toute une nuit blanche parce que vous avez un pyromane qui joue à cache-cache avec vous à incendier des caves et des caves et des caves, oui, ça marque aussi tout ce qui est. Vous savez, la fonction, chaque sortie est différente et chaque sortie est marquante. Moi, en tout cas, c'est ma perception du métier. C'est pas forcément dans les grands incendies qu'on a les meilleurs souvenirs. Parce que dans les grands incendies, vous avez tellement de monde qui est déployé que vous avez une tâche bien précise à effectuer. On dit, voilà, oui. Tu te mets à tel endroit, tu arroses tel endroit, etc. Alors que quand c'est de moindre importance et quand on a de l'humain, c'est beaucoup plus marquant. Parce que... J'ai un tas de souvenirs d'interventions qui ne sont pas forcément des interventions très spectaculaires, mais qui touchent énormément.
Ça doit être en tout cas passionnant, ce métier, parce que il y a aussi, comme vous l'évoquez, le fait de devoir compter sur son compagnon, hein, celui qui est derrière vous,
exactement,
devant vous, à votre
exactement
droite. Vous devez tous compter les uns sur les autres. Et je suppose que oui, c'est ce que vous disiez. Vous pouvez, si vous avez peur, vous pouvez mettre en péril toute la brigade, quoi, en fait.
C'est ce qu'on nous dit bien à la formation. On nous dit bien, vous n'êtes rien sans les autres et les autres ne sont rien sans vous. C'est vraiment un travail d'équipe.
Alors, vous étiez...
Si vous n'avez pas confiance en votre coéquipier, ce n'est pas la peine de partir. Vous risquez votre vie et vous risquez la sienne. On est obligé de bien s'entendre sur un feu, sur une intervention importante.
Vous dites, je ne sais même plus la question que je voulais... Si, ça y est, ça me revient. Pompier volontaire, vous m'avez dit que vous étiez donc dans l'enseignement. Est-ce que cette mission de pompier volontaire vous a apporté un plus en tant qu'homme et en tant que... Bah, vous étiez prof ou vous étiez quoi dans l'enseignement ?
Alors, j'étais dans le primaire. J'étais dans le primaire. Oui. Donc, j'étais instituteur et puis directeur d'école. Et ensuite, je suis passé dans le secondaire. Là, c'était un peu plus compliqué. Je ne suis resté que 3 ans. Enfin, donc, c'est tout est dans le livre. Je vais pas vous détailler. Mais en tant qu'homme, ça, c'est indéniable. C'est-à-dire que lorsque vous montez une garde, vous êtes 24 heures, vous voyez la vie, vous voyez la mort, vous voyez la détresse des gens. Quand vous rentrez chez vous ensuite, vous êtes différent. C'est-à-dire, le ménage n'est pas fait ou ouais, y a de la vaisselle qui traîne. C'est pas grave, quoi. C'est un détail. On s'en moque. Vous avez vu tellement plus dramatique la veille. Voyez. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Et en termes d'ouverture sur la vie, c'est une fonction extraordinaire. Parce que lorsque vous êtes pompier, vous avez affaire à des gens qui ne se cachent pas. Ils sont au naturel. Combien de fois je suis intervenu chez des gens que je connaissais par ailleurs et qui montraient une de leurs facettes. C'était un vernis. Et chez eux, c'était tout à fait différent. Voyez. Et ça c'est important. Vous vous rendez compte que les gens les plus riches sont très loin d'être les plus généreux, par exemple. Voyez. Vous vous rendez compte que ceux qui jouent les durs, ben, sont en fait
les plus heureux, qui peuvent être
pour
les
rien.
Plus,
ouais. Voilà, exactement. Mmh. Vous voyez vraiment les gens à nu. Et ça, c'est formateur. C'est vraiment l'école de la vie. Là, vous ne pouvez pas être pompier si vous n'êtes pas humain.
On va marquer une petite pause, mon cher Patrice. C'est passionnant et on va vous retrouver après l'info, d'accord ?
D'accord,
à tout de suite.
Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Passées de 3 minutes, vous êtes sur Europe 1 et si vous venez de nous rejoindre, c'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7-39-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace comme Mamie Tam Tam le fait ce soir, en disant super pour le Premier ministre, mais j'attends le jour où ce genre d'info rentrera dans une normalité et qu'on n'en parlera pas autant aux infos, mais c'est pas pour demain, nous dit Mamie Tam Tam, en nous rajoutant plein de bises pour nous. Merci pour les bises, Mamie Tam Tam, et vous avez raison, souhaitons que ce moment arrive vite. Toute l'équipe de la Libre Antenne vous attend, donc en régie, Laurent Pellet et Mathias Elena, qui sont tous les deux aux manettes ce soir, avec bien évidemment les deux petits fidèles, Florian et Julia, qui attendent vos appels en régie, chers amis. L'équipe est au grand complet. Nous sommes avec Patrice, qui depuis le début de l'émission nous parle de cette mission de pompier volontaire. En même temps, qu'il est dans... Vous êtes toujours dans l'éducation nationale ou vous êtes en retraite ?
Ah, ça y est, je suis heureux retraité.
Libre
maintenant.
Et libéré. D'accord.
Ah, complètement.
Donc, ouais. Vous pouvez parler d'autant plus, mon cher, et je vais profiter d'avoir un jeune retraité pour pouvoir aussi parler de l'éducation nationale. On va en parler un petit peu quelques minutes, si vous le voulez bien, parce que j'aimerais avoir votre avis sur l'état de l'école aujourd'hui. Nous parlions tout à l'heure en début d'intervention, de même si c'est une minorité de comportements qui, ici et là, dans cette société française, se passe un peu partout. Je parle d'incivilité, je parle de manque de respect, de l'uniforme. Je parle d'une éducation qui s'est délabrée au fil des années. J'ai 57 ans, donc nous ne sommes pas si loin que ça, Patrice. Et j'ai l'impression que l'éducation et l'école, avant de la République, nous apportaient une vision de la société, alors sûrement moins anxiogène qu'elle ne l'est aujourd'hui, puisqu'il est vrai que pour ces enfants aujourd'hui, et pour ces jeunes un peu plus tard, hein, les ados, ce monde est dur, hein, cette société est devenue plus dure. N'empêche que j'ai tendance à penser que beaucoup de choses, pour ne pas dire tout, se joue à l'école. Qu'est-ce que vous pensez de ça et quel est votre avis sur l'école républicaine aujourd'hui ?
Alors écoutez, j'ai sorti un livre qui s'appelle « Sauf qui peut » sur les pompiers, sur ma vie de pompier. Et le livre, j'ai sorti un livre l'année dernière qui s'appelait « Requiem pour l'éducation nationale ». Donc vous voyez, ça résume un petit peu ce que je pense de l'éducation nationale. Et effectivement, pour faire le parallèle entre les deux, quand je vois à quelle école j'ai été, je parle l'école des sapeurs-pompiers, dans ma formation, comme on m'a appris à respecter les anciens, à respecter la parole des autres, etc. Et j'ai effectivement, tout au long de mes 22 ans de sapeur-pompier, vu qu'il y avait une évolution dans le mauvais sens. C'est-à-dire que lorsque j'ai arrêté mes fonctions de sapeur-pompier, effectivement,
oui.
Les jeunes avaient tendance à tout savoir. Une de mes dernières interventions, on faisait un massage sur une personne âgée, et j'avais un petit jeune avec moi, et je lui ai expliqué, je dis « Attention, là, tu masses pas tout à fait comme il faut. » Non, non, il avait tout vu, il savait tout. Et soudain, j'entends « crac, crac ». Il est complètement folie, il dit « Qu'est-ce que c'est ?» Je dis « Tu vois ?» Là, tu viens de casser des côtes. Les os des personnes âgées, c'est très fragile. Il faut bien être vertical, etc. Et donc, tout ça, cette morgue, mais cette assurance et ce refus de conseils, eh ben, ça vient de l'école. Et je crois qu'effectivement, Requiem pour l'éducation nationale, ça résume un petit peu tout ce que je pense. Et je crois que si effectivement l'éducation nationale jouait réellement son rôle, je ne parle même pas du rôle des parents, hein, les pompiers ne seraient pas attaqués comme ils le sont aujourd'hui.
Je le pense aussi profondément. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, les profs et l'école, en règle générale, ne se sent plus investis de faire passer auprès des enfants ce respect-là. En ont-ils moins le pouvoir, vu le comportement de certains parents d'élèves, hein, aujourd'hui, qui n'hésitent pas même à aller insulter les profs, parfois les frapper. Il y a une certaine peur, hein, qui s'est installée aujourd'hui. Un prof, aujourd'hui, sait qu'il peut prendre des coups. Donc, c'est sûrement pas tous les jours facile, en fait. Mais, n'empêche que, je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que moi, j'ai tendance à penser que tout se joue, enfin en tout cas une grande partie de l'équilibre de notre société, de la bonne marche de notre société, se joue à l'école. Et, et on parle de ces enfants, mais ce sont les profs aussi qui sont un peu lâchés, sentent lâchés.
Qui sont lâchés.
Oui, qui sont lâchés. Parce qu'on le sent à travers les différents témoignages qu'on a eus ici de profs.
Bien sûr.
Il y a vraiment ce sentiment d'être lâché et de ne pas, si problème il y a, et ça peut être, je vais vous dire, hein, ça peut être le signalement. Il y avait un collaborateur, enfin en tout cas un collègue de France Télévisions, qui aujourd'hui occupe d'autres fonctions, mais il a été prof, et il me racontait hésiter à faire un signalement, vous voyez, de violence faite sur un enfant, de peur de ne pas être suivi par sa hiérarchie.
Bien sûr.
Non seulement de ne pas être suivi.
L'éducation nationale, c'est un problème de gouvernance. Hein, c'est
oui.
Tout.
Non seulement de ne pas être suivi, mais d'être mis un peu en marge par sa hiérarchie. C'est très étonnant.
Mais c'est tout à fait ça. C'est aussi ce que je raconte dans Requiem pour l'éducation nationale. Vous savez, dans tous mes livres, je relate vraiment des faits bien précis, toujours. Je vais vous donner deux exemples que j'ai vécu en tant que sapeur-pompier et que je raconte dans Sauf qui peut. Il y a bien longtemps, on était donc à la caserne, il y avait des petits rigolos qui s'amusaient à nous appeler d'une cabine téléphonique. Vous savez, comme on s'amuse à embêter les pompiers à faire des fausses alertes.
Oui.
Et bien, à l'époque, on avait relevé le numéro de téléphone de diverses cabines. Et un jour, on a reçu un appel et on a vu que c'était de telle cabine que les petits chenapans nous appelaient. Eh bien, il y a des copains pompiers qui sont partis, qui sont allés à cette cabine et qui ont bloqué la porte et qui ensuite ont appelé la police.
Mmh.
Vous voyez ? Et bon, ils se sont pris une remontée de bretelles au commissariat et les parents ont été convoqués. Mais ça ne pourrait plus se faire aujourd'hui, parce qu'on porterait plainte contre les sapeurs-pompiers, parce qu'on n'a pas à bloquer des enfants dans les cabines, etc. Et je vais vous donner une deuxième anecdote, donc là, beaucoup plus récente, toujours à propos d'enfants, pour voir comme la société a évolué. Donc, on est appelé pour un enfant de 3 ans renversé par une voiture. Donc, vous savez, quand c'est un enfant, on ne plaisante jamais chez les pompiers, hein, on sent toujours qu'il y a de la concentration. Enfin, donc voilà, heureusement, donc l'enfant était dans le VSAB, tout se passait bien, donc il était examiné par le médecin du SMUR, et finalement, il n'y avait plus de peur que de mal. Et on voit la maman qui arrive. Moi, je me dirige vers la maman, et je dis, « Madame, rassurez-vous, tout va bien, votre enfant n'a rien, c'est bon. » Mais elle n'en avait rien à faire de son enfant. Elle a commencé à hurler en disant, « Je vais porter plainte contre la mairie, il n'y a pas de barrière, c'est pour ça que mon enfant est allé sur la rue, on n'a pas pu l'empêcher. » Alors qu'elle laissait son enfant tout seul à 3 ans dans un milieu urbain. Donc maintenant, on est passé d'une société où les parents étaient responsables de leur enfant et leur remontaient les bretelles quand il y en avait besoin, à une société où effectivement... les parents ne sont plus responsables de rien, il faut toujours trouver un coupable, et on essaye de judiciariser pour éventuellement toucher des indemnités ensuite. Et ben les sapeurs-pompiers vivent cela tous les jours maintenant.
C'est fou, hein, c'est fou.
Ouais.
C'est fou, et c'est vraiment c'est flippant, hein, d'entendre quelqu'un comme vous parler aujourd'hui de ça. Parce que finalement, cette société-là, elle part, elle part comme ça, dans du grand n'importe quoi. Alors que...
Ah, bon, ça, vous savez, ça a toujours été aussi. Hein. C'est-à-dire que je pense que moi, quand j'avais 20 ans, je pense qu'il y a d'ailleurs les anciens sapeurs-pompiers devaient bien penser que j'étais un chien fou. D'ailleurs, dans mon livre, je les remercie bien, je dis parce que c'est vrai que j'étais un chien fou. Et là, bon, j'ai 60 ans, je parle comme un vieux schnock, sans doute un peu normal. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, ça s'accélère un petit peu. Et... Ouais, c'est comme ça, hein. C'est comme ça.
En tout cas, je vous remercie mille fois pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1, mon cher Patrice. Vous pouvez me rappeler encore un deuxième super souvenir avant qu'on se quitte.
Vous savez, les super souvenirs, c'est beaucoup de ça passe beaucoup dans les regards. C'est terrible ce que je vais vous raconter. Vous savez, il y avait un petit papy qui était décédé en jouant à la pétanque devant chez lui. Bon voilà. Et donc on était là, et donc malheureusement il n'y avait plus rien à faire, et on attendait tout simplement les pompes funèbres. Et vous savez, dans ces cas-là, vous avez toujours un tas de curieux qui sont là, on les appelle les vautours, ils se repaissent du malheur des autres, etc. Et en tant que pompier, vous n'avez pas le droit de transporter un mort dans votre véhicule. Mais là, au bout d'un temps, donc là, j'étais le chef, c'est moi qui ai pris la décision. Il a dit, hop, on transporte. Donc on a enfreint la loi pour pouvoir transporter ce pauvre papy décédé chez lui, dans sa chambre. Et si vous aviez... les remerciements de cette famille, vous voyez, qui pouvait maintenant laisser libre cours à son deuil, c'est terrible. Lors des moments terribles, vous avez des remerciements comme ça qui n'ont pas lieu d'être. Mais vous voyez, ce sont des petits gestes. C'est ça qui forme les souvenirs. Après, des souvenirs comiques, il y en a énormément. Hein. Tout ce qui est humain, en fin de compte. Tout ce qui est humain. Puis autrement, je vous dis, les souvenirs, vous savez, une fois, il y avait une prostituée qui avait eu un accident, mais tout à fait bénin. Mais elle était complètement affolée, la pauvre, elle était en état de choc, puis on l'a rassurée. Et à la fin, elle était tellement rassurée qu'elle nous a proposé ses services gratuitement, vous voyez.
Incroyable.
Donc, j'ai un copain, il y avait un collégien qui a voulu couper, c'était l'hiver, il y avait de la glace, il a voulu courir sur l'étang, paf, il est tombé en plein milieu de l'étang, donc il allait mourir et c'est un copain qui s'est encordé, qui allait en rampant jusqu'au milieu des temps pour le maintenir à flot pendant qu'il y avait un hélicoptère qui arrivait pour les litreuiller, tout ça. Enfin, vous voyez, il y a un tas de souvenirs comme ça, pas forcément impressionnants, mais je dis surtout par le regard des enfants, le regard d'une maman qui nous remercie, tout ça. Après des souvenirs, bah vous savez, on est équipé quand on est pompier et pour une intervention quelconque, j'avais pris 3 mètres d'avance sur les autres et donc il y avait quelqu'un qui était en arrêt cardiaque et donc je fais du bouche à bouche alors que normalement on a ce qu'on appelle un bas-vue hein, pour faire des insufflations. Mais ça c'était il y a 20 ans et j'ai encore dans ma bouche le goût des lèvres de la personne à qui j'ai fait ce bouche à bouche. Vous voyez, ce sont des flashs comme ça,
oui.
Mais qui, vous n'avez pas un souvenir en particulier. Vous voyez, et je vous dis, j'ai peut-être 500 anecdotes dans le livre. Ce sont 500 souvenirs différents, mais très forts émotionnellement. Lorsque vous savez, on fait les calendriers à la fin de l'année. On distribue les calendriers. Oui. Et moi, j'étais sur un secteur, j'avais un couple de petits vieux qui devaient avoir 80 ans, et qui étaient adorables. Et chaque année, ils m'ouvraient la porte. Et la femme, c'était une petite, qui faisait 30 kilos tout mouillé. Et le monsieur, il était très, très handicapé. Il respirait avec une bouteille d'oxygène. Bon, il était vraiment très diminué. Mais chaque année, je parlais avec eux. C'était adorable. Enfin, vous voyez, c'est... Et puis l'année, je sonne, et c'est le monsieur qui vient m'ouvrir, et j'ai tout de suite compris. Et il s'est jeté dans mes bras, il a pleuré. Vous voyez, c'est rien, c'est pas... Mais humainement, c'était vraiment très fort. J'avais compris que, après, je sais pas, 60 ans de mariage, peut-être, ça y est, la petite mamie était décédée au cours de l'année. Vous voyez, c'est un tas de petits souvenirs comme ça... Mais je sais pas, c'est peut-être parce qu'il est tard, donc je suis un petit peu pas nostalgique, mais je vous raconte beaucoup de choses qui sont tristes, mais il y a surtout beaucoup de.
Bah écoutez, gardez-en pour les futures lectrices et lecteurs qui liront votre livre, Sauf qui peut, Aventure d'un pompier volontaire. C'est aux éditions City Edition. Et je vous encourage vivement à lire la suite parce qu'il y a bien évidemment plein d'autres choses qui vous éveilleront dans ce bouquin. Merci Patrice pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1.
C'est moi qui vous remercie.
Bon vent et profitez bien de votre retraite, mon cher, bien mérité.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Merci. Au revoir.